On se voit à la radio.
Le podcast d'Impulseur.
David Rival.
Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Impulseur. Philippe Pierre est sociologue et intervenant au sein des réseaux de formation de managers et dirigeants, GERM et APM. Après un premier épisode consacré à l'attractivité des talents, Philippe nous parle du moment crucial que constitue le recrutement.
On se voit à la radio.
Le podcast d'Impulseur.
Bonjour Philippe.
Bonjour David.
Après avoir parlé d'attirer les talents, dans ce deuxième épisode, nous parlons de recruter, d'intégrer les talents et de surcroît de tous les âges. Alors recruter, c'est par définition une séquence d'anxiété. Je ne sais pas si le temps, l'énergie que je vais consacrer au recrutement sera rentabilisé. C'est quoi la méthode Philippe Pierre pour bien recruter ?
La méthode Philippe-Pierre, ça serait d'accepter l'idée de ne pas confirmer trop vite, notamment, tu sais, ce qu'on appelle une bonne ou une mauvaise première impression, et de pratiquer l'exploration. Et la méthode, c'est d'accepter l'idée que si on n'a pas changé d'avis au cours du processus de recrutement, tu vois, on va dire 45 minutes, puis on va un peu détailler ensemble, eh ben, on n'a pas vraiment recruté. On est sûrement allé trop vite en besogne. Et ce phénomène, tu vois, s'intensifie quand on a peu de candidatures, qu'on est soi-même un peu fatigué et qu'en face de nous, on a quelqu'un dont on se dit assez tôt, assez vite, allez, ça va le faire.
Donc finalement, ça marche dans un sens comme dans l'autre. Tu as conscience d'être à contre-courant de ce que dit la Vox Populi sur le sujet, hein ? C'est-à-dire que tout se passe dans les deux premières minutes ou les 30 premières secondes. Tout le monde a une théorie là-dessus. Toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut lâcher ces théories.
Ouais, il faut les lâcher, ces théories. Et puis, son intuition, par exemple. Tu sais, souvent, j'entends des personnes me dire, comme tu viens de l'évoquer, « Oh, moi, je sais que ça va le faire en quelques minutes. » Bah, sa bonne première impression, c'est la bonne, c'est la sienne, c'est donc la meilleure, mais on ne travaille pas seul. Et donc, je crois, moi, et notamment avec des jeunes ou des moins jeunes qui peuvent être impressionnés par ce moment du recrutement, qui ont besoin de confiance pour véritablement livrer ce qu'ils ont de meilleur. Eh bien, on a besoin de créer ce climat, ce contexte, pour s'entendre dire notamment des choses qu'on n'a pas nécessairement envie d'entendre. Parce que sinon, on va regarder chez l'autre quelque chose qu'on connaît chez soi depuis 10 ou 15 ans et on va avoir tendance à aller le chercher trop vite. Donc, méfions-nous de ce qu'on ressent quand on le ressent. Accueillons-le parce que c'est une bonne intuition, mais acceptons l'idée que c'est une gare de départ. Recruter efficacement, c'est faire un voyage entre une gare de départ, sa bonne première impression, ou pire, mauvaise, et une gare d'arrivée.
D'autant plus qu'il y a un écart qui est parfois très important et qui est difficile à appréhender entre l'intuition et les croyances.
Ouais, tu as parfaitement raison.
Les fameux biais de confirmation qui sont dans la catégorie croyance et l'intuition qui, elle, est une connaissance qui passe plutôt par le corps. Mais distinguer les deux, c'est un vrai travail.
Bah, c'est un vrai travail. Alors, bon, j'ai, si tu veux, une ou deux techniques. Par exemple, je crois beaucoup au fait de marcher pendant un entretien de recrutement. Je sais que ça fait partie des choses qui te tiennent à cœur aussi.
Oui, quand, ça c'est complètement.
Quand on marche avec un candidat, alors d'abord, il faut que nos équipes s'habituent, hein, parce qu'on peut, comme tu l'as dit tout à l'heure, on casse les codes, hein, et c'est bon hein, de casser certains codes. Hein. Et quand on marche avec quelqu'un, d'abord, on élargit son champ de perception parce que ton corps se met plus en mouvement. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a tendance à passer de la convivialité à l'intimité. Et moi, quand j'ai beaucoup recruté à une époque de ma vie, je m'apercevais que j'avais des candidates ou des candidats impressionnés par mon bureau, mon espace physique. Et quand je marchais avec eux, je redonnais sa chance, notamment à des jeunes, tu vois, qui n'ont pas les mots aussi spontanés, qui n'ont pas forcément un art oratoire aussi bien huilé. Et donc, marcher avec quelqu'un, c'est donner sa chance à des compétences qui sont inattendues. Et ça nous rassemble aussi. Le talent est souvent caché.
Et c'est une bonne façon de trier ses émotions, et, en tout cas de permettre au candidat de trier ses émotions et donc de contacter davantage d'émotions positives. Ça doit être intime, un entretien, pour toi ?
Ça doit... La personne qui recrute doit poser un cadre de déontologie. Et je crois, moi, qu'un entretien, c'est un processus, et ça sera mon deuxième point, c'est un entretien, idéalement, c'est deux fois. Et là, on peut mieux cerner quelqu'un. Tu vois, jamais en un seul espace physique, la pratique de la marche. Deuxième idée, jamais en une seule fois, de manière à voir la personne et l'appréhender sous un autre angle, un peu comme en cinéma. Et la troisième chose, c'est jamais tout seul. Il faut partager avec quelqu'un qu'on apprécie et qui ne pense pas comme nous, ce qu'on a ressenti de l'entretien qu'on vient de passer et puis distinguer, différencier son regard. Je crois beaucoup à ça. Et un peu comme tu vois, David, on pourrait faire une analogie avec une œuvre d'art. Hein. C'est certainement un peu idéaliste, mais j'assume cet idéalisme. Rencontrer quelqu'un, c'est pas opérer un rendez-vous qu'on a programmé, non, c'est plus que ça. Une rencontre, il y a de l'imprévisible. Et quand on aime une œuvre d'art, ben, on marche dans la pièce pour saisir la construction de l'œuvre ou la lumière différemment. On vient revoir l'œuvre sous un autre angle, une autre humeur, et on en parle avec un ami. Mmh. Et ça, je crois que c'est très important. Jamais en un seul lieu physique, jamais en une seule fois, jamais tout seul. Et accepter l'idée de changer d'avis pendant l'entretien, c'est très important.
Sur quelles compétences tu bases ton jugement pour recruter et plus largement pour évaluer ?
Bon, la première, c'est la compétence technique. On peut dire, tu vois, le savoir-faire métier. Mais j'accepte tout à fait, en fait, d'intégrer des personnes qui vont acquérir progressivement ce savoir-faire. Mmh. La deuxième compétence, c'est le faire savoir.
Est-ce que je reviens une ouais. seconde sur ce que tu disais. L'autre jour, j'échangeais avec une recruteuse qui se lamentait de ne pas trouver de candidat et disait bah, « moi, j'accepte n'importe quelle candidature ». Et puis quand j'ai vu l'offre, quand elle me l'a envoyée, c'était blindé de diplômes, d'expérience et de connaissances techniques. Et oui. Il y a parfois un gros écart entre le constat, la désolation et puis véritablement l'intention de recruter.
Oui, et puis d'une certaine manière, si elle se pose ses cadres en amont, elle se bride dans la découverte. L'effet diplôme, par exemple. Moi, je dis souvent, ne relisez pas quelques minutes avant d'aller à la rencontre de quelqu'un en entretien, le CV, ne le faites pas. Vous allez souvent, inconsciemment, poser comme ça des incontournables. Et ça va orienter, ou plutôt ça va souvent ne pas aller à la favoriser, en fait, une vraie rencontre. Donc, il faut se laisser surprendre. Et mais il faut quand même avoir une grille. Alors, j'ai 5 ou 6 mois compétences, le savoir-faire, le faire savoir, c'est est-ce que cette personne en face de moi saura varier ses registres de communication quand elle changera d'interlocuteur ? Ce qui souvent en entreprise est un problème parce qu'on n'arrive pas forcément à former le premier niveau d'encadrement à cette capacité à parler à tous. La troisième compétence, c'est le savoir-faire faire, la capacité à influencer, tu vois. Son statut hiérarchique, ça c'est très important dans un univers en mode projet, de plus en plus.
Influencer et transmettre,
exactement. Et ça, c'est ma quatrième compétence, c'est savoir agir en transversalité. Et favoriser ces logiques d'apprenance. Et puis la cinquième, c'est la qualité de présence. Quand la personne est là en face de moi, elle est vraiment là avec moi. Alors ça, c'est vrai au moment d'un entretien de recrutement, mais ce qui est chouette, c'est d'accepter l'idée que ces 5 ou 6 compétences peuvent être utiles, tu sais, aussi au moment des temps d'évaluation. Et il faut se méfier parce que moi, je préfère beaucoup des feedbacks réguliers, courts et intenses, à une sorte de sacro-sainte réunion où une fois dans l'année, on est supposé tout se dire les yeux dans les yeux.
Alors, le titre de cet épisode, Philippe, « Recruter et intégrer les talents de tous les âges », j'ai envie d'ajouter « et de tout niveau d'études oui. ». Quelle place imagines-tu pour des personnes moins diplômées que ce que requiert une fonction et comment repérer le potentiel de candidat, du candidat qui n'entre pas dans les cases habituelles ?
Ouais, tu as raison, oui. En variant ces méthodes de recrutement, par exemple, le fait de marcher, le fait d'être côte à côte, ça va favoriser des jeunes qui n'ont pas forcément une très grande technique acquise à l'école d'entretien.
Et puis, ou tout simplement qui sont débordés par les émotions. Je constate tous les jours des managers, des dirigeants qui peuvent être très à l'aise dans certaines circonstances. Mais quand on les met, quand on les plonge dans certains contextes, notamment un entretien ou notamment une prise de parole en public, sont débordés par leurs émotions. C'est humain.
Ouais, tu as parfaitement raison. Et donc, c'est à nous, ça, c'est un devoir quand on accueille et quand on recrute, de mettre en confiance et d'accepter l'idée que, allez, pendant les 10 premières minutes, on ne juge pas. On suspend son jugement, on distancie son regard. Et c'est un travail de métacommunication. Et donc, n'allons pas trop vite en besogne pour évaluer la personne en face de nous. Laissons-lui le temps de délivrer et de donner ce qu'elle a de meilleur. T'as parfaitement raison.
Quelle est la place du récit dans ce processus ?
Un récit, en fait, est une conversation, même qu'on arrive à faire naître entre la personne que l'on reçoit Et nous qui accueillons, combien de fois je me suis retrouvé, tu vois, en situation où, à la fin d'un entretien, la personne me tire par la manche avec gentillesse et me dit, Philippe, j'ai encore quelque chose à te dire ou à vous dire. Et en fait, tu vois, David, c'est là que l'entretien démarre. C'est parce qu'on a changé d'espace physique, on a changé de tonalité, comme dans une belle composition musicale, que d'une certaine manière, il y a une émergence, il y a quelque chose qui fait sens. Et il faut savoir s'étonner volontairement.
Ouais, c'est le moment où le spectacle est terminé, on relâche et puis
Ouais.
il peut y avoir de belles confidences. Je reviens d'un festival, le festival des vieilles charrues, et je
Ah, c'est
constate
bien.
que les conférences de presse à l'issue du spectacle ou du concert sont souvent de meilleure qualité.
Ouais,
Dernière.
parce que on se donne le droit de l'éducation de l'audace, on expérimente, alors qu'avant on peut être un peu figé dans les rôles qu'on nous demande de tenir, quoi.
Alors justement, y a-t-il des questions inutiles en entretien de recrutement qui ne feraient que amplifier le jeu de rôle, le jeu de dupe que constitue l'entretien? Et si oui, quelles sont les
Oh
bonnes
oui, il y en
questions
a.
ou la bonne posture? Le récit peut en faire partie.
Ouais, tu as parfaitement. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un appareillage juridique hein, en France hein, autour de situations de discrimination. Qu'est-ce que c'est discriminer? C'est traiter une personne en situation comparable de façon, je dirais, incorrecte, la traiter défavorablement par rapport aux autres. Et donc, ça peut être lui demander la profession de ses parents. On n'a pas le droit, et c'est très bien comme
Donc
ça.
ça, c'est non seulement inutile, mais c'est interdit.
C'est interdit, donc il faut avoir ça toujours en tête. Poser des questions de l'ordre de l'intime sur une orientation sexuelle, sur une situation matrimoniale. Non, il faut savoir jauger sur la compétence, et donc c'est un travail d'approche qui me semble important. Moi, j'ai une question que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, c'est si je partais en voyage avec vous, avec quelques autres amis pendant une semaine, quelle est la chose que nous devrions savoir sur vous pour que ça se passe bien? Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien et que j'ai toujours aimé poser, le point de vigilance qui se transforme ensuite en belle opportunité.
Est-ce que tu poses la question des trois défauts ou des trois qualités?
Jamais. Non, j'ai peut-être
Elle...
tort,
J'ai eu une petite fébrilité en attendant ta réponse.
ouais, parce que toi, tu la poses, non,
Mais
je
non,
pense
je
pas.
la pose pas parce que je vois absolument aucun intérêt. Est-ce qu'on demande à un entrepreneur quels sont les défauts de son entreprise? Ça n'a aucun sens. Donc pourquoi est-ce
Non.
qu'on pose cette question à un candidat?
Ouais, tu as parfaitement raison. Non, et puis même les plus malins pourraient s'y préparer avec brio, et à ce moment-là, on continuerait de confirmer et on ne se donnerait pas la chance d'explorer.
Ben oui, c'est ça.
Et
On resterait dans le jeu de rôle, dans le théâtre.
ouais. Et un talent, hein, parce que ça fait écho aussi à notre premier échange, à notre première séquence. Un talent, c'est quelqu'un de différent, hein. C'est quelqu'un qui nous percute dans nos évidences et qui va créer à un moment donné une situation un peu de choc de représentation. Et il faut savoir à ce moment-là les regarder sous un autre angle. Un peu comme, je sais pas si tu te souviens sûrement du film Billy Elliot,
Oui.
qui était un très beau film justement sur ce jeune adolescent qui était dans un univers ouvrier, difficile, minier, et son père veut absolument qu'il fasse de la boxe. Et d'une certaine manière, son père l'enferme dans la confirmation. Et Billy Elliot parvient en fait à la fin du récit à faire de la danse, parce que c'est dans cette pratique qu'il va s'épanouir. Et il y a quelqu'un d'important dans ce récit, c'est la professeure de danse qui va voir le papa de Billy Elliot. Et elle lui dit, Monsieur, votre fils a quelque chose que les autres n'ont pas. Vous devriez le regarder sous un autre angle.
Ce que j'aime justement, c'est que tu proposes un autre angle, tu proposes une logique à contre-courant ou à mon sens, dans le bon sens. Merci beaucoup Philippe.
Merci beaucoup,
Et à très
David.
bientôt pour le troisième épisode, Fidéliser les talents.
Avec plaisir.
Retrouvez d'autres sons et vidéos
sur impulseur.com
et sur la chaîne YouTube Impulseur.